Le titre est L'intelligence artificielle et l'intelligence spirituelle humaine. J'aimerais commencer avec Pascal parce que vous savez combien pour Pascal, notamment dans les pensées, c'est précisément la raison, ou si vous préférez l'intelligence. Ici, pour l'instant, c'est équivalent. C'est la raison qui constitue la grandeur de l'homme. C'est par sa raison que l'homme est grand. Vous savez que chez Pascal, il y a trois ordres. Il y a l'ordre des corps, il y a l'ordre des esprits, et puis il y a l'ordre de la charité. Et l'ordre des esprits, qui est celui de la raison, dépasse infiniment l'ordre des corps. Infiniment. Si, dit Pascal, par mon corps, je suis compris dans l'univers, je suis une infime partie de cet univers qui est infini, dit Pascal, eh bien, par ma raison, je le comprends. Mais la raison n'a pas en elle-même son propre horizon chez Pascal. Au-delà, il y a l'ordre de la charité. Et d'une certaine manière, l'homme n'est grand par sa raison que dans la mesure où la raison est ce grâce à quoi chacun peut découvrir la misère de la condition humaine. Et donc aspirer à cet ordre de la charité, et découvrir et comprendre la nécessité de cet ordre de la charité qui dépasse infiniment l'ordre de la raison. Voilà pour Pascal, nous sommes au XVIIe siècle, et comme vous savez, eh bien, les philosophes des Lumières, par la suite, et je pense notamment à Rousseau, eh bien, continuent dans cette veine, en quelque sorte, au moins en partie. C'est-à-dire que l'homme se distingue par sa raison. L'homme se distingue des autres animaux par le fait qu'il est, dit Rousseau, indéfiniment perfectible. On va aller vers les idées du progrès. Il est indéfiniment perfectible grâce à sa raison. Et c'est vrai que grâce à la raison, on peut produire des outils, des dispositifs qui apportent une certaine perfection à l'homme. C'est vrai. Il l'est infiniment, et donc on voit que, eh bien, on est encore dans un âge de la raison, et même ô combien avec les Lumières. Mais il faut quand même dire aussi que tous ces philosophes s'inscrivent dans la tradition initiée avant Jésus-Christ, bien sûr, chez les Grecs, par Thalès. Thalès, c'est celui qui va donner à la raison une forme nouvelle, extraordinaire, qui est au point de départ de l'Occident. Il existait, bien sûr, la raison qui faisait des mythes, car c'est un discours rationnel, le mythe. Attention, le mythe, c'est un discours rationnel. En tout cas, les mythes grecs, les mythes anciens, c'est un discours rationnel, d'une certaine forme de rationalité, qui pose des questions qui sont profondes. Ce sont les questions de l'origine, des origines, l'origine du cosmos, l'origine des dieux, l'origine des hommes. Et puis Thalès, on le connaît, puisqu'il y a un théorème qui porte encore son nom. C'est le théorème de Thalès. Thalès est un grand mathématicien, Thalès c'est un astronome. Vous savez, vous connaissez cette légende que transmet Platon, selon laquelle, regardant, scrutant le ciel, Thalès tombe dans un puits. Et là, il y a une servante qui se moque de lui en disant qu'il est incapable, lui qui scrute très au loin, de voir ce qui est à ses pieds. Et Platon, surenchérir en disant « Ah oui, ça dit beaucoup eh bien, de l'esprit philosophique. » Parce que Thalès est celui qui initie l'esprit philosophique. Vous voyez, une nouvelle forme d'utiliser sa raison, c'est-à-dire cette idée qu'il a de se dire les poètes, les théologiens de l'époque posent de bonnes questions, mais finalement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a des mythes qui s'opposent. Il n'y a aucun accord entre les mythes. De l'autre côté, on a un usage de la raison qui est celui des mathématiques. Et là, il y a l'accord des esprits. Les uns et les autres sont d'accord. Quand on utilise les mathématiques, alors on est d'accord. Et là, je dirais le grand génie de Thalès, qui est en grande partie l'une des origines, des racines de notre Occident, eh bien, c'est de se dire, utilisons la manière de faire en mathématiques pour traiter les questions posées par les théologiens. Les théologiens de l'époque, qui sont polythéistes. Et il invente ainsi la philosophie. Je ne développerai pas. Mais vous voyez, cette tradition qui commence avec Thalès, elle honore la raison, elle honore l'intelligence, et cet hommage à l'intelligence, cet hommage à la raison, ici encore une fois, je ne fais pas de distinction pour l'instant, eh bien, ça s'appelle l'éducation. Ce que l'on trouve de grand, c'est d'éduquer. C'est-à-dire élever, c'est grand. C'est rendre grand, c'est donner de la hauteur. Et donc, nous étions dans cette tradition jusqu'aux Lumières, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, enfin peu importe, les dates ici sont données comme repères, parce que notons quand même une chose, mais c'est vrai déjà avec le courant Dada au début du XXe siècle, notons une chose, c'est qu'aujourd'hui, la raison, l'intelligence nous apparaît comme une honte douloureuse, pour parler à la manière de Nietzsche, comme une honte douloureuse. Nous sommes mal à l'aise avec l'intelligence. Nous sommes très mal à l'aise avec l'intelligence, et je n'entends pas beaucoup dire « la grandeur de l'homme consiste en la raison ». Ce qu'aimait à répéter Pascal. Il y a un malaise dans la raison, au niveau de la raison, autour de la raison, et ce peut-être en fonction de deux facteurs. Le premier, je pense à ce psychologue cognitiviste, c'est-à-dire qui étudie le dispositif de connaissance, qui est également un économiste, puisqu'il a eu en 2002 le prix Nobel d'économie, Kahneman. Vous avez tous entendu parler sans doute de lui, en tout cas on en parle énormément, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale. Et la thèse de fond, c'est que l'homme est irrationnel. L'homme est irrationnel, c'est-à-dire que face à un risque, il prend des décisions irrationnelles. Souligne Kahneman, et je cite Kahneman parce qu'il est un point de départ. D'abord, ça va renverser l'économie classique, la conception de l'économie classique, où on partait du principe que l'homme était rationnel. Et voyez, aujourd'hui, on a comme principe que l'homme n'est pas rationnel. Alors, je ne vais pas développer, mais peut-être que certains comprendront, c'est tous les nudges, la mise en place des nudges. Peut-être que vous avez entendu parler au moment des questions, je veux bien expliquer ce que c'est ici, ce n'est pas l'objet direct. L'homme est irrationnel. On considère l'homme comme étant irrationnel, comme ayant des biais. Il pense mal. C'est amusant parce qu'on a voulu le former à l'esprit critique et on en arrive à un homme qui est irrationnel. C'est étrange quand même. Hein, dont on dit qu'il est irrationnel et qu'il va falloir faire quelque chose. Et d'un autre côté, on a ce, ou plutôt c'est, développement de l'intelligence artificielle. Évidemment, il n'y a pas que ChatGPT. C'est l'un des exemples les plus connus d'intelligence artificielle générative qui génère du texte, qui génère de l'image, etc. Mais je crois que ça se passe dans la fin des années 90, notamment en 1997 avec Deep Blue, qui bat Garry Kasparov aux échecs. On estimait que jouer aux échecs était l'apanage de personnes extrêmement intelligentes. Et voilà que la machine bat le champion du monde aux échecs. Donc, vous voyez, d'un côté, vous sentez là le contexte, on est après-guerre. D'un côté, on prend conscience que l'homme est irrationnel dans ses décisions. Un des exemples de caractère irrationnel, et je ne dis pas ça du tout pour lever une polémique, mais dans Nature, il y a pas très longtemps, dans les années 2000, il y a eu un article dessus, disant il faut débaptiser Homo, on ne peut plus l'appeler Homo sapiens, en raison du désordre écologique dont il est l'origine. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'arguments pour dire que l'homme est irrationnel, il ne mérite plus d'être appelé homo sapiens, d'un côté, et de l'autre, on est fasciné par la machine intelligente, l'intelligence artificielle qui bat le champion du monde aux échecs, mais c'est la même chose pour le jeu de dames, Jeopardy, etc., etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de cas semblables. Alors, on peut utiliser ici une expression qui, d'un philosophe qui s'appelle Günther Anders, ici les noms que j'utilise, ils ne sont pas très importants à retenir. Il parle de honte prométhéenne. Si j'ai pris ce mot de honte vis-à-vis de l'intelligence, ce n'est pas par hasard. On parle vis-à-vis de la technique, qui est le fruit de l'intelligence, d'une honte prométhéenne. L'homme a honte devant le produit de sa technique, qui finalement semble peu à peu être mieux que lui. Parce que l'homme est issu de l'évolution, d'un hasard aveugle, etc. Alors que, quand même, la technique est issue d'une raison qui est critique. Et donc, il y a cette honte prométhéenne. Si on devait donner un petit peu plus d'arguments par rapport aux raisons de cette honte, je dirais premièrement que cela vient du fait qu'il semble peu crédible d'affirmer, c'est bien ce que vous avez retenu comme titre, hein, que l'intelligence pourrait être spirituelle. Que l'intelligence humaine pourrait être spirituelle. C'est une croyance, diront beaucoup de psychologues cognitivistes, c'est-à-dire qui s'occupent des connaissances, des croyances. C'est une croyance, mais cette croyance n'est pas rationnelle. Il y a quelque chose d'irrationnel, et donc on considère que l'intelligence est bien quelque chose de matériel, ce qui est normal. Je maintiens, ma proposition est conditionnelle. Si l'homme est le fruit de l'évolution, je vais être même plus précis, si l'homme est totalement le fruit de l'évolution, alors il est totalement matériel jusque dans son intelligence. Or, nous savons, par nos sciences de la vie et de la Terre, qu'il est le fruit de l'évolution. Et donc, il est extrêmement difficile, à moins d'opposer une croyance religieuse, mais vous savez, quand il y a un débat entre la science et la foi, eh bien, c'est difficile pour la foi. Deuxième raison, sans doute, ce sont les biais. Alors, les biais cognitifs, ce sont... Vous voyez, la modernité avec Descartes avait commencé en disant que les sens nous trompent. C'était la grande affirmation dans un des moments de la réflexion cartésienne. Les sens nous trompent. Vous avez sans doute entendu cela. Ça reste encore très vrai en psychologie. En psychologie, on étudie beaucoup les illusions sensorielles. On est focalisé sur l'erreur. Les biais, c'est que nos raisonnements, nos jugements sont erronés, sont trompeurs. Intéressant. Vous voyez, on dévalorise la raison, l'argument apparaît comme quelque chose de faible. Et puis, autre raison, finalement, l'intelligence, à quoi sert-elle ? Il ne faut pas croire que parce que nous sommes dotés d'une raison, eh bien, nous soyons supérieurs. Autrement dit, ce que je veux simplement vous faire... sentir finalement, c'est qu'aujourd'hui nous doutons de notre raison, nous ne croyons plus dans la raison, et d'ailleurs c'est sans doute une des raisons pour laquelle par ailleurs nous ne croyons plus beaucoup dans l'éducation non plus, parce que je crois que c'est très très lié. L'intelligence, raisonner, finalement il faut que ce soit utile. Oui, si c'est utile. Oui, si ça sert. Oui, si c'est utile. D'ailleurs, quand on est enseignant, souvent, les élèves disent « Oui, mais pourquoi on fait ça ? À quoi ça sert ?» etc. La raison, oui, mais si elle fait quelque chose qui est utile. Alors, on avait ça avec Francis Bacon, on a même ça chez Descartes. C'est très moderne comme conception des choses. C'est pas du tout grec. Pour les Grecs, c'est plus grand, c'est pas utile. Mais pour nous, c'est difficile. Il faut que ce soit utile. Les choses n'ont de valeur qu'elles sont utiles. C'est bien simple. On ne connaît que deux sortes de valeurs, disait Marx. La valeur d'utilité, d'usage, et la valeur d'échange, ce qui a un prix, ce qu'on paye. Et si ce n'est pas utile, ça nous semble sans valeur. Alors on se dit, ben la raison humaine, est-ce que c'est vraiment utile, etc. À quoi ? Et oui, bien sûr, ça l'est, bien sûr. Mais alors, si on compare la raison humaine à l'intelligence artificielle, enfin, attendez, elle fera encore beaucoup mieux, elle sera beaucoup plus performante. Dans au moins certains cas, on a vu celui des échecs, il y en a bien d'autres, et on va prolonger cette réflexion, eh bien, elle sera beaucoup plus performante que l'homme dans bien des cas. Autrement dit, finalement, la raison, en beaucoup de situations, je ne dis pas toutes pour l'instant, en beaucoup de situations, fait mieux que l'homme. Et ça, c'est une raison pour laquelle l'intelligence est dévalorisée. La première question concernera l'intelligence artificielle, qui est une machine. Et donc, si elle est une machine, pourquoi parle-t-on d'intelligence ? Comment peut-on attribuer l'intelligence à une machine ? Deuxième question, aujourd'hui, est-il encore rationnel de soutenir que l'intelligence humaine est spirituelle ? Et puis, troisième question, qui est une question importante, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait, c'est pas encore le cas, si ce n'est sur des points très particuliers, dépasser l'intelligence humaine en tout point. La philosophie a une triple mission. Je ne dis pas qu'il y a seulement ces trois missions-là. Mais elle a ces trois missions qui, pour notre époque en particulier, sont extrêmement importantes missions. Et surtout, je crois que sur ces missions-là, la philosophie est irremplaçable. Première mission, clarifier le langage. Apporter une clarification du langage. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? De quoi parle-t-on ? Il faut clarifier le langage. C'est sa mission, première. Deuxième mission de la philosophie, c'est de peser les idées. Car il y a des idées légères. Oh, c'est ce qu'on appelle parfois les idéologies. Et ça, la mission de la philosophie, c'est de peser les idées, voir celles qui ont du poids. Et parmi les idées, il y a les religions. La philosophie, elle s'intéresse autant aux sciences qu'aux religions. Voilà, il y a toute religion. Bah, dans les religions, il peut y avoir des idées légères aussi. Alors, troisième mission, c'est d'alivrer une expertise sur la valeur des choses. Parce que si la valeur n'est qu'une valeur d'usage, une valeur d'échange, alors ça veut dire que c'est l'homme qui est la source des valeurs. Les choses ont une valeur parce que l'homme, eh bien, leur donne tel usage ou leur donne tel prix. L'homme devient source de la valeur. Répondons alors à notre première question. Pourquoi dire d'une machine qu'elle est intelligente ? Car l'intelligence artificielle est une machine. Quand on parle d'IA, on veut dire deux choses. On veut dire soit un champ disciplinaire, c'est-à-dire une discipline scientifique, soit eh bien, un dispositif. Eh bien, ce dispositif qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est une machine. Alors, je ne vais pas développer, hein, je ne fais qu'évoquer avec vous, mais pas une machine au sens où on l'entend spontanément, au sens d'Alan Turing, en 1936, où il construit ce qu'on appelle la machine de Turing, ceux qui font de l'informatique connaissent. La machine de Turing, c'est quelque chose qui est complètement abstrait. C'est le cœur, en quelque sorte, hein, de la matrice de l'ordinateur. On peut faire une machine de Turing avec des Legos. Le NS Lyon a fait, il y a quelques années, une machine de Turing avec des Legos, c'est-à-dire un ordinateur en Lego. On pense qu'un ordinateur, il faut de l'électricité. Alors là, vraiment pas du tout. Hein. Ça, sûrement pas. Pour faire un ordinateur, il faut sûrement pas d'électricité. C'est pas nécessaire. Par contre, il faut une machine de Turing. Alors, je ne vais pas développer, hein, c'est un ruban abstrait dans lequel il y a des cases, dans lesquelles sont inscrits des 0 et des 1, et puis il y a une tête de lecture qui peut, grâce à une table de lecture, il y a une tête de lecture qui peut écrire, avancer, reculer, effacer, écrire des 0 et des 1. Et on a la base, en quelque sorte, de ce que c'est qu'un calcul. La machine de Turing sert à définir ce que c'est qu'un calcul. et on peut faire des ordinateurs avec, comme dit John Searle, des chats, des souris et des gruyères. Simplement, il faut beaucoup de chats, beaucoup de souris, beaucoup de gruyères. Ça, c'est quand même, c'est pas intuitif, hein, c'est contre-intuitif. On peut faire un ordinateur avec l'humanité. Il faut mettre des process et fonctionner uniquement avec des process, des algorithmes. Alors, le point, si vous voulez, c'est que pourquoi appeler cette machine intelligente? Parce que précisément, Descartes qui, a formé beaucoup de générations, s'est employé à montrer que la machine ne peut pas penser. Parce que pour Descartes, l'animal est une machine. Et Descartes dit, on ne pourra jamais démontrer si l'animal pense, néanmoins on peut apporter un signe, un signe quand même qui est très fort, et ce signe qui est très très fort, ben c'est la parole. C'est le langage articulé, c'est la parole. Vous allez voir, c'est terrible. Finalement, si on sait que vous avez un esprit, ben c'est parce qu'en fait, je vous parle, vous me comprenez, vous me parlez, je vous comprends. Bref, c'est la parole qui est le signe de la pensée. C'est assez évident. Oui, mais voilà que les machines sont devenues bavardes. Voilà que les machines parlent. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et Alan Turing l'avait bien compris. Il se pose la question de savoir si une machine peut penser. En 1950, dans un article célèbre, Alan Turing est grand mathématicien et il va répondre, alors c'est très très intéressant, il va commencer en disant, c'est très très intéressant Turing, il va dire, sans doute qu'il faudrait définir ce que c'est que l'intelligence, mais personne n'est d'accord, on ne saura jamais, si on définit on ne saura jamais, il n'est pas philosophe autrement dit, on peut pas, on va faire autrement, on va imaginer une expérimentation, on imagine une expérimentation. Alors, il y a quelqu'un derrière un clavier qui pose des questions à d'autres qu'il ne voit pas. Il les pose à l'aveugle. Et l'autre, ou les autres, eh bien, parmi eux, certains sont des personnes de chair et de sang, comme vous et moi, d'autres sont des machines. Et Turing de dire, le jour où celui qui pose la question, sans savoir à qui, sera incapable de discerner si la réponse vient d'une personne humaine de chair et de sang ou d'une machine, alors à ce jour-là, on pourra dire que la machine pense. Et même si vous dites que pour penser, vous avez besoin d'un esprit, il y a beaucoup d'informaticiens qui disent ça, je lis beaucoup de textes en ce sens, et bien alors à ce moment-là, il faut reconnaître que dans la machine, pour y avoir un esprit, vous avez même entendu parler de téléchargement de l'esprit, etc., sur les machines, etc. Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'esprit, on sait simplement que c'est ce qui permet de parler, or la machine parle, semble comprendre. Je vais être encore un peu plus précis. Finalement, pour Turing, l'intelligence, c'est cette parole dans un jeu de questions et de réponses. On pose des questions et il y a une réponse qui est adaptée. Et Turing, toujours, de dire, eh bien, la machine pourra penser, opérer toutes les tâches purement intellectuelle. Elle pourra penser. Elle pourra penser, mais vous voyez, pas simplement pour jouer aux échecs. Et là, c'est quand même extrêmement intéressant, je voudrais les citer. En 1958, il y en a un qui dit, un de ses fondateurs de l'intelligence artificielle, il existe dans le monde des machines, donc il existe, hein, c'est pas dans l'avenir, il existe dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. De plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, l'ensemble des problèmes qu'elles peuvent résoudre sera coextensif au domaine des problèmes auxquels l'esprit humain s'est attaqué. C'est-à-dire que la machine pourra aborder tous les problèmes que se pose un être humain. Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle des hivers. L'intelligence artificielle va connaître bien des hivers, c'est-à-dire des moments de désespoir. Un hiver, en général, ça veut dire qu'il y a le gel du financement. C'est vraiment un hiver, c'est une belle métaphore. Le financement est gelé, on ne finance plus la recherche. Donc il y a un hiver. Et il y aura, évidemment, on va désespérer au moment des systèmes experts. Certains ont sans doute travaillé, entendu parler des systèmes experts. Système expert, c'est finalement faire en sorte que la machine imite en quelque sorte la manière de comprendre l'intelligence proposée par Descartes. C'est-à-dire, on va programmer la machine. Chez Descartes, il y a des idées innées. Et une fois qu'elle sera bien programmée, on va la faire fonctionner, on va la faire tourner. Et puis, à partir des années 90, on va se dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il va y avoir la mise en place du machine learning, du deep learning. Je ne veux pas être trop technique, mais finalement, ça veut dire qu'on va chercher à imiter la conception de l'intelligence d'un autre philosophe qui est Hume. C'est un empiriste. Il pense qu'on n'a pas d'idées innées, toutes faites, si vous voulez, et que les idées viennent de l'expérience. Elles se construisent sur la base de l'expérience. Et donc, l'intelligence artificielle va chercher à imiter ces processus-là. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? C'est que l'intelligence artificielle, je ne sais pas si elle est intelligente pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est qu'on la dit intelligente parce qu'on cherche à imiter l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle est dite intelligente dans la mesure où elle imite l'intelligence humaine. Et pour l'instant, on comprend ce que ça veut dire dans la mesure où, par intelligence, on entend cette capacité à poser et à répondre à des questions. C'est un jeu de questions-réponses, qui est capable de questionner et de répondre de façon pertinente à des questions. Voilà ce qu'on comprend pour l'instant concernant l'intelligence. Mais finalement, on ne l'a pas vraiment définie. Et très souvent, on ne la définit pas. Je dirais même que ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle ne la définissent pas. Finalement, ce n'est pas tellement le besoin d'un scientifique que de définir. C'est vraiment le travail d'un philosophe. Alors, je crois qu'il faut par ailleurs faire référence à un philosophe et psychologue qui est un très grand penseur, même s'il n'est pas très vulgarisé. Il s'appelle Jean Piaget, en 1936, d'ailleurs comme donc Turing, Alan Turing et sa machine de Turing, même année. Il va travailler sur la naissance de l'intelligence chez le jeune enfant, c'est le titre de son ouvrage. Donc il est à la fois psychologue et philosophe. En fait, à cette époque-là, la psychologie, ça n'existe pas comme discipline autonome. Quand on veut faire de la psychologie, on est soit médecin, soit philosophe. Lui était philosophe. Mais il a posé les bases de la psychologie, ce qu'on appelle surtout la psychologie du développement, et... C'est extrêmement intéressant, sa manière de définir l'intelligence. Pour moi, c'est ce qui est derrière l'affirmation sur laquelle la machine est intelligente. C'est ça qu'il va falloir qu'on interroge. Il définit l'intelligence en termes d'adaptation. Entendez qu'une poule est intelligente, elle est très adaptée à son milieu. Les arbres peuvent l'être aussi. Alors, c'est pas ce qu'il dira, c'est ce que diront d'autres par la suite, mais lui parlera d'intelligence sensorimotrice. D'intelligence sensorimotrice, donc ça convient très bien à l'animal. Sensorimotrice. C'est une capacité d'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Et vous allez comprendre que ça va très bien fonctionner pour la machine. C'est une capacité à, un, assimiler des données, et deux, remodeler des catégories, des cadres, changer les règles grâce auxquelles on assimile les données. Donc c'est une capacité à s'adapter, si vous voulez. C'est vraiment ce qui nous permet d'être adapté à notre environnement, d'avoir des réponses adaptées. Et alors à ce moment-là, on est intelligent. Mais vous comprenez une chose, c'est que l'intelligence n'est plus le propre de l'homme. Je ne peux pas dire que la raison est ce qui fait la grandeur de l'homme. Ça n'a plus de sens. L'expression, la pensée de Pascal en 1936 n'a plus de sens. Et pour notre époque non plus, du reste, n'a plus de sens, en fait. On utilise ça comme un vestige. Le point, je crois, c'est que Alan Turing va, dans son ouvrage de 1950, se faire des objections. Il va commencer par une objection d'ailleurs qu'il emprunte à Thomas d'Aquin, car il utilise Thomas d'Aquin dans le débat contemporain, qui est très très présent dans le débat contemporain, dans tous les champs disciplinaires. Il dit, oui, on pourrait dire que l'intelligence est quelque chose de spirituel. Et donc, parce que l'intelligence est quelque chose de spirituel, on ne peut pas dire qu'il y a une intelligence artificielle. Mais ça, c'est un argument théologique, et donc ça n'a pas de poids. Vous voyez, la transition est toute faite pour ma deuxième partie. Est-il raisonnable d'attribuer quelque chose de spirituel, une caractéristique, le mot spirituel, à l'intelligence? L'intelligence humaine est-elle spirituelle? C'est-à-dire que l'intelligence, c'est quand même ce qui me permet, peu importe ce que j'entends par ce mot, mais ce qui me permet de connaître, ce qui me permet de dire « je sais, je connais », quand même ça. D'ailleurs, le sens aussi. On est dans l'ordre de la connaissance. Il y a la connaissance sensible, et puis il y a une connaissance intellectuelle, rationnelle. À chaque fois, on est dans l'ordre de la connaissance. Mais du coup, pour parler de l'intelligence, en fait, je crois, d'ailleurs tout le monde, je crois qu'il n'y a personne qui ne puisse parler de l'intelligence sans le faire en comparant l'intelligence au sens. La capacité de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, d'imaginer, de se souvenir, parce que les sens peuvent être externes ou internes. Et c'est par rapport au sens en général qu'on va parler de l'intelligence. Et donc j'aimerais ici vous parler de la sensation, du fait de sentir. Je voudrais le faire en philosophe et pas en psychologue, parce que si je le fais en psychologue, on va surtout insister sur le fait que, en quelque sorte, la sensation, c'est une construction de mon cerveau. Et ça, c'était un phénomène extraordinaire. Moi, je crois que quand j'ai réfléchi sur la connaissance sensible en philosophe, ça a été un des moments les plus forts. Parce que la sensation, c'est quelque chose d'évident, sentir, quelque chose d'évident. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment se fait-il que je ne vois pas les impressions sensibles qui se font sur mes organes? Comment se fait-il, pour parler à la manière de Descartes, que je ne vois pas des tableaux à l'intérieur de moi? Comment se fait-il que je ne sois pas en moi-même en train de voir des représentations, des images, peut-être de l'extérieur, ou peut-être pas? Mais c'est pas ça que je suis en train de voir. Quand je vous regarde, c'est vous que je vois. C'est pas une image. Je me fais pas une image de vous. Peut-être que par ailleurs, je me fais une image de vous, bien sûr, physiologiquement. Mais néanmoins, quand je connais, quand je vous vois, ce que je vois, c'est pas cette image qui se produit, certes. Mais ce que je vois, c'est pas ça, c'est votre visage. D'ailleurs, il y a une chose, vous me permettrez, et ça nous servira pour la suite. Si on vous le demande, dites bien que vous ne m'avez jamais vu. Mais dites-le bien, en votre âme et conscience. Vous ne m'avez jamais vu. C'est intéressant, ça. J'ai jamais vu de montre. J'ai jamais vu de table. Je vois des couleurs. Je vois des figures. Je touche. Voyez, ici, surface. Mais c'est pas la table que je touche. Quand je vois votre visage, je vois votre visage, votre figure. Mais c'est pas vous. Vous n'êtes pas votre figure. Voyant votre figure, je vous reconnais. Mais ce ne sont pas mes sens qui vous reconnaissent. Mes sens voient votre figure. Mais vous voyez, c'est assez extraordinaire, ça. Alors, John Searle, que j'ai déjà évoqué, qui est un auteur contemporain, on va le dire dans des termes contemporains, dans un livre qui s'appelle « À la redécouverte de l'esprit », il dit, il va parler de la référence. Comprenez bien, quand vous avez une machine avec des capteurs, vous avez une machine, une tondeuse là, un robot tondeuse, avec des capteurs, c'est ça, ou un robot quelconque, autonome. Il y a des capteurs, mais il ne sent rien. Il n'a aucune connaissance. Parce que vous voyez, connaître, c'est être en capacité de faire référence à quelque chose d'extérieur. Searle a une expérience de pensée, c'est ce qu'il appelle la chambre chinoise. En fait, pour la machine, il se passe un peu comme pour moi, si j'étais dans une chambre d'un hôtel complètement fermée, et puis on me fait passer un message écrit en chinois. Je connais pas un mot, un traître mot de chinois. Par contre, j'ai un petit manuel qui me permet de traduire, alors en anglais, mais nous on va dire en français, le chinois, de dire, ben là, ça, faire une correspondance, c'est pas traduire, il y a une correspondance. Quand il y a tel signe, ça correspond à tel autre signe. Et puis ça va dans les deux sens. Moi, ma pensée, je vais pouvoir faire correspondre avec le système de symboles chinois. Je vais pouvoir répondre, refaire passer dans le sens inverse le papier. Pour autant, est-ce que je parle chinois? Absolument pas. Est-ce que je comprends? Est-ce que je connais le chinois? Absolument pas. La machine ne fait pas référence à l'extérieur d'elle. Elle reste en elle, enfin, elle a des informations qui restent en elle, c'est ça que je voulais dire. Elle a des informations qui restent en elle grâce à ses capteurs. Nous avons aussi des capteurs, mais nous avons aussi des informations qui restent en nous, bien sûr. Mais quand nous connaissons par nos sens, eh bien, nous faisons référence à quelque chose d'extérieur. Ici, en l'occurrence, ce sont vos visages. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas banal, parce que peut-être peut-on dire que ça n'arrive qu'aux vivants, et encore pas à tous les vivants, peut-être pas aux plantes. Les vivants auxquels ça arrive, eh bien, c'est précisément ce qu'on appelle les animaux. À la rigueur, ils ont des racines, ça ne me gênerait pas. Qu'un animal ait des racines, à partir du moment, il a cette capacité à faire référence et à connaître. C'est même très fort parce que cette référence, on pourrait travailler. C'est pas n'importe quelle référence à l'extérieur, c'est bien votre visage que je connais. C'est bien votre visage que je connais. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose. C'est bien comment dire. Il y a bien une ressemblance entre ma sensation par laquelle je connais et puis votre visage. C'est bien votre visage que je connais. C'est pas moi qui donne à votre visage sa forme. C'est ça que je veux dire. Alors en ce moment, avec les visios aussi, les photos, les IA, on peut déformer. Mais là, je parle dans la vie courante. Hein. C'est pas moi qui donne la forme de votre visage. Votre visage a sa forme et je peux la voir. Extraordinaire. Vous voyez, je fais référence à quelque chose qui est extérieur à moi. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'intentionnalité. C'est la caractéristique de la connaissance. Capacité de rejoindre l'autre en tant qu'autre. Ça, c'est capital. Hein. Ça serait à travailler. Parce que derrière, il y a des questions très très fortes, notamment quand on se pose une question d'identité. Eh bien, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est finalement avec ce qu'on appelle l'intelligence, ce par quoi on se pose des questions, ce par quoi on répond, eh bien, avec ce qu'on appelle l'intelligence, qu'est-ce qu'on connaît? Avec nos yeux, on a dit qu'on connaissait les figures, par exemple. Avec nos... Louis, on connaît les sons. Alors donc, l'intelligence, que connaît-elle en fait? Ça, c'est une question. Et vous voyez, quand on se pose la question, la grande difficulté, si on la pose en tant que scientifique, c'est que le scientifique, il doit mesurer. Ça fait partie de sa méthodologie. Il doit mesurer. Par conséquent, il ne va pas pouvoir faire référence à l'expérience que nous avons au-dedans de nous-mêmes, à une expérience interne, que quelquefois on qualifie de subjective, mais c'est aller sans doute un peu vite que de la qualifier de subjective, en tout cas il faudrait préciser ce qu'on dit, et le philosophe va être attentif à l'expérience que nous avons, parce que nous avons au-dedans de nous-mêmes l'expérience de penser. Et donc nous pouvons être attentifs à ce que nous pensons, à ce que nous voulons dire quand nous disons quelque chose. Que voulons-nous dire quand nous disons quelque chose? Oh, bien souvent d'ailleurs, on le sait, nous parlons pour ne rien dire. Mais que disons-nous quand nous ne parlons pas pour ne rien dire? Finalement, qu'est-ce que j'exprime par le langage qui est connu par l'intelligence et non pas par mes sens? Qu'est-ce qui est exprimé par le langage et qui ne relève pas de l'émotion? Parce que bien sûr, les mots évoquent toujours des émotions. On aime, on n'aime pas, on ça me met en colère, etc. Bien sûr, il y a un pouvoir émotionnel du langage. Mais quand on ne parle pas pour rien dire, que dit-on ? Que connaît-on avec l'intelligence ? C'est pas simple. C'est pas simple du tout. C'est un moment assez difficile, mais que je vais essayer de clarifier quand même. On pourrait apporter une première réponse en disant ben, « je connais des individus ». Voilà, je sais que Pierre, Paul est là, qu'il y a une table, cette table, je connais des individus. Je ne sais pas. Les individus, je les connais par mes sens. Je n'ai pas besoin de mon intelligence. Le singulier est connu par le sens. Ce que je perçois, c'est jamais le bleu, c'est toujours ce bleu. C'est jamais la figure, c'est toujours cette figure, quelque chose de singulier. Quand je connais quelque chose avec mes sens, c'est toujours quelque chose de singulier. C'est ceci. Avec mon intelligence, déjà, c'est intéressant parce que on voit bien le langage, je parle de l'homme, à la rigueur, je parle de la couleur. À la rigueur, je parle de l'intelligence artificielle. Tout ceci n'est pas très sensible, tout ceci n'est pas très singulier. L'intelligence, vous voyez, ou plutôt le langage, quand il exprime l'intelligence, exprime quelque chose qui n'est pas singulier. Qui est très général. La question, c'est finalement... est-ce que c'est pas quelque chose que je construis ? Est-ce que quand je dis ceci est un homme, c'est pas une construction personnelle ou sociale ? Est-ce que finalement le langage n'est pas institué ? Est-ce que nous ne produisons pas les choses en les nommant ? Et si nous produisons les choses en les nommant, nous ne les connaissons pas. Nous les produisons. Le langage, on dit qu'il est alors performatif. Il produit. Il suffit de dire pour que ce soit le cas. C'est ainsi parce qu'on l'a dit. Il produit. Vous savez, c'est quelque chose aujourd'hui, une conception qui est très très répandue. Les choses, celles sont ce que nous disons qu'elles sont. Ouais. Donc l'intelligence est une sorte d'ouvrière. Elle fait, elle produit. Elle est active, elle s'active. De certaine manière, elle ne connaît pas si tel est le cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire au contraire que l'intelligence, quand elle est en jeu, elle est ce qui me donne le sens des responsabilités ? Est-ce que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui... D'intelligence, ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui a un grand QI. C'est pas ça, quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui a un grand QI, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités. Mais les capacités, ça n'est pas nécessairement l'intelligence. Le sens de la responsabilité, c'est extraordinaire. J'entends par responsabilité, eh bien, ce qui est responsable de ce qui arrive. Vous voyez, l'homme a cette quête. L'intelligence, autrement dit, se pose des questions, et cette question qu'elle se pose est très souvent, même si ce n'est pas la seule, la question pourquoi. La plupart de nos questions se ramènent à la question pourquoi. Les questions principales, c'est est-ce que ça existe et pourquoi ? Et puis après, on peut donner plein de modalités. En quoi, dans quelle mesure, etc. Ce sont des modalités, ça. Mais les questions principales, justement, on disait que l'intelligence, elle pose des questions. C'est est-ce que ça existe ? Et quand ça existe, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est responsable de l'existence ? Je sais pas, moi j'imagine toujours cette scène où je botte l'arrière-train d'un chien, c'est pas bien, il se retourne, il me mord. Et j'imagine encore cette scène, c'est une expérience de pensée bien sûr, où quelqu'un me botte l'arrière-train, ou je botte l'arrière-train de quelqu'un, il se retourne, il me dit « mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et puis ensuite, il me mord. C'est une métaphore. Mais il se pose la question... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Il l'exprime d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui est responsable de ton comportement ? Si on est attentif, on verra que l'intelligence, eh bien, cherche des responsabilités. Oh, le mot responsabilité est un mot qui est intéressant, mais qui est absolument équivalent à un mot plus abstrait, mais pourtant fort utilisé, c'est le mot cause. Une cause, c'est ce qui est responsable. Quelqu'un qui est responsable de quelque chose, d'une association, eh bien, il est cause. Il est cause. Il exerce une causalité. L'existence de ce dont il est responsable dépend de sa causalité, de lui. Et alors, à ce moment-là, c'est ça. Quand je ne fais que regarder, je pense à la conception de Hume. Hume dit que nos idées ne sont rien d'autre que des copies de nos impressions sensibles. Donc, impression sensible, je regarde, je vois la forme du gobelet, et mon idée n'est rien d'autre qu'une copie de ce que j'ai vu. Mais si mon idée n'est rien d'autre qu'une copie de ce que j'ai vu, je n'ai plus aucune cause. Quand je regarde, j'ai de l'information, mais je n'ai pas de cause. J'ai un fait, la forme du gobelet, mais je n'ai aucune cause. Je ne sais pas pourquoi le gobelet a cette forme. Quelqu'un d'intelligent est quelqu'un qui a le sens des causes. Et je dis qu'il a le sens des causes parce que, en fait, il existe beaucoup de sortes de causalités. Souvent, quand on cherche un responsable, on pense de manière très univoque. Voilà, il y a un responsable. Ah non, dans une association, une organisation, il y a plein de responsables. Plein. Pas tous au même niveau. Pas tous de la même manière. Et quelqu'un d'intelligent, eh bien, ne serait-ce qu'au niveau des organisations, eh bien, il a le sens des différentes formes de responsabilité. J'allais dire, au niveau de la nature, c'est la même chose. Quelqu'un d'intelligent, il a l'intelligence, eh bien, des différents types de responsabilités pour comprendre, eh bien, je sais pas moi, pourquoi il y a telle espèce à tel endroit, par exemple. Oui. Alors, l'intelligence humaine est cette capacité à saisir des causes, et ça, notez bien que l'intelligence artificielle ne le fait pas. L'intelligence artificielle fait des corrélations. Elle calcule. Elle fait des calculs statistiques. Elle peut dire, par exemple, pour les IA génératives, quand il y a tel mot dans tel contexte, il y a telle probabilité pour que tel autre mot suive. Mais ce n'est pas ce que nous faisons quand nous parlons. Pas du tout. On ne fait pas un calcul de probabilité. Et si d'ailleurs nous le faisions, ça irait tellement lentement qu'on ne dirait pas grand-chose. La machine calcule, l'homme ne calcule pas. L'intelligence humaine est une intelligence qui saisit des responsabilités. Alors j'ai très peu de temps, pourtant j'avais des choses très belles à dire. Je peux simplement dire que si on réfléchissait sur ce qu'on vient de dire concernant l'intelligence humaine, on pourrait peut-être affirmer que l'intelligence humaine n'est pas chose matérielle. Notez bien que ce qui est matériel, c'est ce qui change. Ce qui peut, la matière, c'est ce qui, c'est la condition du changement, de ce qui évolue, de ce qui est différent, de ce qui est autre. Mais tout ce qui est matériel est toujours singulier. Vous regarderez, vous serez attentif. Tout ce qui est matériel est toujours singulier. Toujours. Mais précisément, mes idées, quand il s'agit de saisir des responsabilités, eh bien c'est quelque chose qui relève de l'universel. Mon intelligence, elle est capable d'universel. Je suis capable de dire quelque chose qui va valoir en tout lieu et en tout temps. Peut-être avec des modalités différentes, mais qui va valoir en tout lieu et en tout temps. Qui est responsable, vous voyez, on pourrait presque dire les mêmes effets ont les mêmes causes. Évidemment, il peut y avoir des circonstances qui font que les choses changent. L'intelligence est une capacité d'universel. Quand les Grecs découvrent ça, c'est Thalès le premier. Quand les Grecs découvrent ça, ils font de l'Occident. C'est l'un des piliers de l'Occident, l'universel. Le sens de l'universel. L'intelligence, c'est cette capacité d'avoir une connaissance qui ne vaut pas que pour ceci, mais qui est valable pour plusieurs. C'est ça que veut dire universel. L'intelligence humaine, c'est quelque chose d'universel. La matière a toujours une capacité au singulier, et c'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles les philosophes disent, ont pu dire, que l'intelligence n'est pas matérielle. Elle est en raison de cette capacité à l'universel, il est vrai que souvent, nous n'utilisons pas cette capacité parce que nous avons finalement en nous une faculté sensible qui est quasiment comme l'intelligence, qui est finalement ce que Descartes appelle le cogito, le je pense, et qui porte sur le singulier, qui est capable de faire des raisonnements sur le singulier, qui est capable de saisir que ceci convient dans telle circonstance. C'est une certaine intelligence qu'on retrouve chez les animaux. C'est vrai que les animaux ont une intelligence, mais l'intelligence animale est un sens. Ça porte sur du singulier. L'intelligence humaine est capable d'universel. Elle est capable de saisir des causes qui valent non pas pour ceci de singulier, mais pour tous, en tout lieu et en tout temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper, et c'est précisément parce qu'on risque de se tromper qu'il faut dire que par ailleurs l'intelligence est une capacité de vérité. C'est une capacité à chercher et à connaître la vérité. Eh bien, l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité à connaître la vérité, ce qui est le propre de l'homme, mais voilà que la vérité, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, cette capacité, c'est quelque chose qui s'exerce, comme d'ailleurs n'importe quelle capacité, qui se découvre en s'exerçant. Et vous savez, l'époque malheureuse que nous vivons, puisque nous parlons de post-vérité pour la qualifier. C'est-à-dire une époque où il n'y a même plus de mensonges, puisqu'il n'y a pas de vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a plusieurs définitions. Vous savez que le mot est apparu dans le dictionnaire d'Oxford en 2016, mais avant il existait déjà et il avait été défini, je trouve, de la meilleure façon. Celle du dictionnaire d'Oxford est un peu complexe, mais il avait été défini de la meilleure façon en disant que la vérité, la post-vérité, c'est le fait que les populations ne désirent plus la vérité, ne veulent plus savoir ce qui est vrai. Elles veulent qu'on les rassure. Elles veulent entendre ce qui leur plaît, mais elles ne cherchent pas ce qui est vrai. Vous voyez, cette vérité, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une éducation. Cette vérité suppose une culture. Cette vérité, elle est comme un habit. Elle suppose d'habiller l'intelligence. Cette vérité dont l'intelligence est capable, eh bien, elle suppose que l'on donne un vêtement à l'intelligence. De la même manière qu'il y a un vêtement pour le corps, nos habits, il y a des vêtements pour l'intelligence. En latin, ça s'appelle des habitus. En français, ça s'appelle des vertus. Il y a des vertus de l'intelligence. Mais j'aime bien le mot latin d'habitus parce que c'est la même étymologie que habit. C'est quelque chose de la même manière que l'habit, c'est ce qui vient s'ajouter au corps et le perfectionne, le complète, le rend capable de bouger en quelque sorte. Et bien, de la même manière, ces habits que sont les vertus de l'intelligence, eh bien, le rendre capable l'intelligence de fonctionner. L'intelligence a besoin d'habits, et c'est le rôle de l'éducation que d'habiller l'intelligence, de lui donner des habitus, on pourrait dire de bonnes habitudes. La prudence, c'est un habit. C'est une métaphore, bien sûr. C'est un habit, c'est une vertu, c'est une disposition, c'est quelque chose qui s'ajoute à l'intelligence et qui rend capable de poser des choix, de prendre des décisions. Et voyez, une décision, c'est pas le fruit d'un calcul. Ça, la machine le fera, je suis désolé, mais j'aurais aimé développer, je pense à Nick Bostrom, par exemple, qui dit que demain, il faudra mettre en place des super-intelligences. Et c'est possible, parce que l'art, la technique, elle imite la nature, et que la nature a pu produire des cerveaux qui font fonctionner l'intelligence, et par conséquent, on sera capable de faire des intelligences au moins équivalentes à celles de l'homme, même plus parfaites, parce qu'elles ne seront pas le fruit du hasard nécessité, mais de notre raison. Et il dit, mais ces intelligences, elles seront capables de résoudre les problèmes que nous ne savons pas résoudre, elles seront meilleures que nous pour prendre des décisions. Nous avons besoin de super intelligence, donc l'intelligence artificielle, pour prendre des décisions. Les hommes ne savent plus décider. C'est vrai. Je dis que c'est vrai. Ce qui est terrible aujourd'hui pour l'humanité, c'est ça. C'est qu'elle a honte vis-à-vis de l'intelligence et qu'elle finit par utiliser l'intelligence humaine, la faire fonctionner comme une machine. Nous fonctionnons bien souvent comme des machines. Notre intelligence peut fonctionner, nous pouvons fonctionner comme des machines. Mais en fait, nous avons d'autres ressources. Nous pouvons prendre le sens des responsabilités, chercher un pourquoi. Et je crois que c'est extrêmement important. Ce qui est en jeu, c'est la vérité. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à prendre des décisions prudentes. Prendre une décision prudente, ça veut dire que c'est pas simplement « je vais calculer le bénéfice et le risque ». Ça, c'est un calcul. Prendre une décision prudente, c'est envisager, quand il s'agit de nos existences, la totalité de nos existences, de notre existence. C'est avoir une vision de la totalité et non pas d'une partie. Je peux pas développer davantage, mais la prudence est quelque chose qui s'apprend, et d'ailleurs, peut-être c'est un raccourci, mais il est utilisable, on l'apprend en regardant des gens qui le sont. Je crois qu'on apprend en imitant, qu'on n'apprendra jamais mieux qu'en imitant, et que quand bien même on apprend de manière livresque, si on veut vraiment réussir, il faudra toujours imiter. Et donc, je crois qu'il y a un bel habit à donner à nos jeunes générations. Eh bien, c'est la prudence. Sinon, eh bien, nous risquons de déléguer nos décisions et nos choix aux machines, ce qui serait vraiment regrettable. Merci.